Vous écoutez On lit pour vous.
Voici ce qu'il vaut mieux éviter de manger pendant la canicule si vous voulez mieux supporter la chaleur. Un texte de article rédigé par Destination Santé et Futura, publié le 24 juin 2026 dans Futura Science. Lors d'un épisode de canicule, votre assiette peut rapidement devenir votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Même s'il ne vient à l'idée de personne de manger une fondue savoyarde ou un bœuf bourguignon, certains aliments, loin de vous rafraîchir, pourraient aggraver la sensation de chaleur. Voici pourquoi un repas trop copieux peut vous épuiser et pourquoi vaut-il mieux éviter le sel et l'alcool. Quels aliments privilégier pour ne pas fatiguer un organisme déjà mis à rude épreuve? En période de canicule, il est conseillé d'adapter son alimentation. On privilégie ainsi les aliments riches en eau, comme la pastèque, le melon, le concombre, la tomate ou encore les agrumes. Mais savez-vous ce qu'il faut éviter? Et pourquoi? En période de canicule, on évite les repas trop copieux, surtout aux heures les plus chaudes de la journée, soit à l'heure du déjeuner. Pourquoi? Prendre un repas signifie aussi qu'il faut digérer les aliments, absorber les nutriments pour les stocker plus tard. Tout cela nécessite une dépense d'énergie qui fait monter la chaleur corporelle. Le phénomène est appelé thermogenèse induite par l'alimentation ou thermogenèse postprandiale par les scientifiques. Le niveau de chaleur produit va dépendre de la quantité et du niveau énergétique de la nourriture ingérée. Ainsi, plus un repas est copieux, plus le corps produira de la chaleur lors de la digestion. Alors que l'organisme est déjà fortement sollicité en période de canicule pour maintenir sa température à 37 degrés Celsius, la chaleur de la digestion va s'ajouter à la chaleur de l'environnement extérieur. Et l'organisme devra fournir encore plus d'efforts pour ne pas surchauffer, ce qui peut provoquer une grande fatigue, un inconfort, voire un malaise ou une transpiration plus importante. Évitez les repas trop riches en protéines. Attention aussi aux repas copieux trop riches en protéines. Les protéines restent évidemment indispensables, mais ce sont les macronutriments qui nécessitent le plus d'énergie pour être digérés, augmentant par la même occasion la thermogenèse. Ainsi, 20 à 30 de l'énergie apportée par les protéines est dissipée en chaleur, contre 5 à 10 de l'énergie apportée par les glucides et 0 à 3 de l'énergie des lipides. Lors des fortes chaleurs, il est conseillé de privilégier les repas légers et fractionnés, avec de petites portions réparties dans la journée, afin de réduire la thermogenèse postprandiale. Évitez les aliments trop salés. Il est également recommandé d'éviter les aliments très salés, comme les chips et la charcuterie, durant un épisode caniculaire. Un apport élevé en sodium augmente les besoins en eau de l'organisme pour maintenir le sodium à une concentration normale dans l'organisme. Et en période de canicule, le corps transpire davantage et a déjà besoin d'un apport en eau supplémentaire. Il est donc préférable de ne pas manger trop salé, notamment si on a tendance à ne pas boire suffisamment. Ne buvez pas d'alcool pour vous rafraîchir. Boire de l'alcool est aussi une très mauvaise idée si on veut se rafraîchir. En effet, l'alcool bloque la sécrétion de l'hormone antidiurétique, l'IADH, dont le rôle est d'augmenter la quantité d'eau réabsorbée dans les reins et de réduire la production d'urine. Si elle est bloquée, on urine plus, on perd davantage d'eau et on se déshydrate plus rapidement. Sans eau, le corps ne peut plus produire la sueur dont il a besoin pour se refroidir. Et en période de canicule, il en a pourtant grand besoin. C'était « Voici ce qu'il vaut mieux éviter de manger pendant la canicule si vous voulez mieux supporter la chaleur », un texte de article rédigé par Destination Santé et Futura, publié le 24 juin 2026 dans Futura Science.
Pourquoi dit-on que Napoléon avait peur des chats? Un texte de la rédaction paru le 16 juin 2026 dans Futura Science. Un conquérant redouté dans toute l'Europe, mais prétendument tétanisé par un simple chat domestique. La légende de Napoléon, ailurophobe, a traversé les siècles avec une remarquable ténacité. Mythe, commode ou fait historique attesté. L'enquête révèle une réalité bien plus nuancée. Napoléon Bonaparte, 1769-1821, est l'une des figures les plus scrutées de l'histoire. Chaque côté de sa vie a été disséqué, analysé, quelquefois romancé. Parmi les rumeurs qui lui collent à la peau figure celle de l'ailurophobie, c'est-à-dire une peur irrationnelle et intense des chats. Cette anecdote circule encore largement aujourd'hui, bien qu'elle remonte à des récits non datés et non sourcés. Spoiler, les preuves solides sont inexistantes. L'ailurophobie, une phobie sérieuse attribuée sans preuve. L'ailurophobie désigne une peur pathologique des félins, bien au-delà d'une élémentaire aversion. Crise d'angoisse, sueur froide, panique à la vue d'un chat. Les symptômes sont invalidants et documentés cliniquement. Plusieurs facteurs peuvent déclencher ce trouble. Une expérience traumatisante durant l'enfance, griffures, morsures. Une éducation marquée par des représentations négatives des chats. Des croyances superstitieuses comme la crainte des chats noirs. Napoléon aurait-il subi un tel traumatisme étant enfant? Aucune source sérieuse ne le confirme. C'est précisément là que le bât blesse. La rumeur repose sur du vent. On retrouve ce même schéma avec d'autres figures historiques à qui l'on prête la même phobie. Jules César, Henri III ou Élisabeth Ière d'Angleterre. Pour chacun, le constat est identique, zéro preuve irréfutable. Ce type de légende en dit davantage sur notre rapport aux grands hommes que sur leur véritable faille. Humaniser un conquérant en lui attribuant une peur ridicule est une façon efficace de le ramener à notre niveau. Un mécanisme psychologique compréhensible, mais historiquement peu rigoureux. Ce que les faits révèlent vraiment sur Napoléon et les chats. Plutôt que de spéculer, regardons ce qui est documenté. Le Code civil, promulgué par Napoléon en 1804, place les animaux domestiques, chats et chiens compris, dans la catégorie juridique des meubles. L'article 528 stipule explicitement que sont meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. Ce n'est pas franchement une déclaration d'amour aux félins, mais ce n'est pas un ciblage particulier non plus. Mieux encore, lors de sa campagne d'Égypte, Napoléon aurait utilisé des chats pour lutter contre les rats dans son armée décimée par une épidémie de peste en Palestine. Difficile de déployer des animaux dont on aurait une phobie paralysante. Cette anecdote, si elle est exacte, contredit immédiatement la thèse de l'ailurophobie sévère. Il est plus juste de dire que Napoléon avait une indifférence teintée de pragmatisme envers les animaux plutôt qu'une peur pathologique. La nuance est significative. Quand la légende fabrique la vulnérabilité des héros. Ce phénomène dépasse largement le cas Napoléon. L'histoire regorge de récits inventés ou amplifiés pour fissurer les figures jugées trop parfaites ou trop puissantes. Attribuer une phobie à un conquérant, c'est lui conférer une faille humaine rassurante. Le problème est que ces récits finissent par s'installer comme des vérités. La répétition crée la conviction. Or, sur ce sujet précis, aucun témoignage contemporain de Napoléon ne mentionne une quelconque réaction de panique face à un chat. La prochaine fois que vous lirez qu'un tel personnage historique avait peur des araignées ou des chats, posez-vous une question simple. Qui l'a vu, qui l'a écrit et quand? L'ailurophobie de Napoléon reste à ce jour une belle histoire sans fondement véritable. C'était « Pourquoi dit-on que Napoléon avait peur des chats ?» un texte de la rédaction paru le 16 juin 2026 dans Futura Science.
Quand la superficie des appartements devient une obsession pour les promoteurs. Un texte de Mégane Foy, paru le 10 juin 2026 dans la presse. Vous trouvez que les nouveaux logements sur le marché sont plus petits qu'avant? Vous avez raison. Les promoteurs construisent de moins en moins de grands appartements, confirment des données compilées par un analyste de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Il n'a fallu que quelques minutes à Francis Cortellino, analyste de marché à la SCHL, pour faire référence au célèbre film de 1989. Mais il s'agit d'une bête à rare scientifique dans « Chérie, j'ai réduit les enfants ». Les promoteurs immobiliers, eux, réduisent de façon très intentionnelle la taille des logements qu'ils bâtissent en 2026. C'est vraiment rendu obsessionnel, insiste le spécialiste, qui discute régulièrement avec des promoteurs. Pour une grande majorité, la superficie des unités est maintenant un élément central pour réduire les coûts. L'analyste a pris en exemple la ville de Laval, où le nombre de mises en chantier a atteint des records en 2025. En seulement quelques années, la différence est marquée. Parmi les appartements de deux chambres construits entre 2021 et 2023 à Laval, 63 % comptent 1000 pieds carrés bruts ou moins. Dans la dernière année et demie, cette proportion atteint 90 %. C'est à peu près le même constat pour les logements d'une chambre. Dans la dernière année et demie, on en compte seulement 1 sur 10 avec plus de 700 pieds carrés, alors que cette taille représentait le tiers des constructions il y a quelques années. Ça donne quand même une idée de ce qui peut se passer un peu partout au Québec, dans les centres urbains, remarque M. Cortellino. Les données comprennent seulement les immeubles utilisant des produits de la SCHL, précise-t-il, mais ils représentent tout de même 80 à 85 % du parc immobilier. La faute revient sans aucun doute au coût de construction, explique l'expert. Si la solution était autrefois d'augmenter les loyers pour compenser la perte, les promoteurs n'ont plus la même marge de manœuvre. On se bat tous pour attirer les mêmes locataires. C'est quelque chose que j'entends souvent ces temps-ci, commente M. Cortellino. Moins occupés et moins longtemps. Les promoteurs ont raison lorsqu'ils pensent qu'il faut maintenant se démarquer pour attirer des locataires. Le nombre de logements inoccupés augmente à Montréal. C'est ce que révèle le récent rapport de mi-année de la SCHL sur le marché du logement. En 2025, le taux d'inoccupation global des appartements dans la métropole s'est élevé à 2,9 %, un pourcentage qui se situe dans la fourchette des taux caractéristiques d'un marché équilibré, selon l'organisation. À Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Gatineau, on compte aussi plus de logements vacants que l'année précédente, le taux d'inoccupation variant de 2,4 à 3,8 %. Mais cet équilibre cache une nuance importante. Les logements les plus chers font grimper cette statistique, puisque ce sont eux qui sont laissés le plus souvent vacants. C'est signe que, malgré la hausse du nombre de logements disponibles, les locataires étaient peu réactifs ou peu enclins à déménager, fait valoir le rapport. Le taux de roulement les plus élevés sont d'ailleurs observés du côté des logements les plus chers, le quatrième quartile, où le loyer dépasse 1 500 $. Cela traduit également qu'une grande part des locataires sont moins tentés d'emménager dans de nouvelles constructions lorsqu'ils comparent la facture mensuelle à leur paiement actuel, note l'expert. Baisse démographique à Montréal. Ces logements vacants ne se rempliront pas de sitôt dans la métropole, constate aussi le rapport. Contrairement aux autres grandes villes du pays, Montréal devrait voir peu de nouveaux ménages se former en 2026. Principale cause, les changements dans les politiques migratoires, rappelle Francis Cortellino. pour la première fois en près de 30 ans, plus de personnes ont quitté le Québec qu'il n'en est arrivé, rapportait justement la presse en mars 2026. Sans croissance de la population, c'est difficile de voir une croissance du nombre de ménages locataires sur le marché, indique M. Cortellino. Seulement à Montréal, la population a connu une baisse démographique de 0,4 % depuis le début de l'année, d'après le rapport de la SCHL. C'était « Quand la superficie des appartements devient une obsession pour les promoteurs », un texte de Megan Foy, paru le 10 juin 2026 dans la presse.
Quand les mots se font attendre. Un texte d'André Magny, paru le 8 mai 2026 dans Le Franco. On estime qu'environ 1% de la population bégaye. Au Canada, cela représente plus de 400 000 personnes, un handicap parfois incompris. Kenny Pindou a voulu faire de son bégaiement un exemple pour soutenir les plus jeunes. Selon l'Alberta College of Speech Language Pathologists and Audiologists, ACSLPA, le bégaiement se caractérise par des interruptions de la parole, souvent détectées entre 2 et 5 ans, et ce sont davantage les garçons que les filles qui en sont atteints. Les personnes souffrant de bégaiement, bien qu'elles aient des interruptions de la parole, des répétitions, des prolongements audibles, des interruptions et des blocages, comme énuméré dans le site « Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec », savent très bien ce qu'elles veulent dire. Cependant, les conséquences peuvent être traumatisantes. Au point que les bègues peuvent s'isoler, éviter de parler, laisser les autres s'exprimer à leur place ou éviter les chances de prendre la parole. Kenny Pindou a voulu briser ce plafond de verre. L'athlète de haut niveau dans le monde du bobsleigh a créé en septembre 2025 l'Alliance des jeunes bègues du Canada. 2 ans plus tôt, il avait accepté de parler de son bégaiement. Pourquoi ? L'élément déclencheur a été une discussion avec Kat Bitov, qui travaille chez XOXO Sports, explique le franco-albertain, né à Montréal. Au moment où Kenny travaillait sur la possibilité d'avoir une marque personnelle, la professionnelle du marketing du sport et du soutien du développement des carrières des athlètes lui a fait prendre conscience que son histoire ne se résumait pas à ses blessures sportives, mais surtout à son bégaiement, confie le sportif. Elle m'a encouragé à en parler et à comprendre à quel point ce message pouvait être puissant pour les autres. Pousser, non pas sur un bob, mais sur un organisme. Après avoir partagé son histoire et collaboré avec certains organismes comme Uninterrupted Canada, une plateforme d'autonomie des athlètes, et Jeunesse J'écoute, un service de santé mentale en ligne, Kenny Pindou s'est trouvé quelque peu à une croisée des chemins, écrire un livre ou fonder un organisme. Il a choisi la deuxième option. L'Alliance des jeunes bègues du Canada est donc née. Sur le site de l'Alliance, on mentionne 4 éléments dans lesquels l'organisme souhaite intervenir. L'emploi, le sport, la santé mentale et l'aspect communautaire. Le sport étant depuis longtemps dans la vie de M. Pindou et ayant été une source de confiance en lui, grâce à ses nombreux contacts avec des athlètes de différents milieux, il aimerait organiser des camps sportifs. Ce serait une occasion pour les jeunes de rencontrer d'autres athlètes, de discuter avec eux et de partager leur propre parcours. L'objectif est de créer du mentorat et de l'accompagnement, même pour ceux dont le chemin n'est pas nécessairement le sport, dit Kenny Pindou. Sans dévoiler officiellement pour le moment le nom d'organisation qui pourrait développer des projets avec son alliance, des contacts ont déjà été faits pour aller de l'avant, assure-t-il. Secondé par son frère jumeau Kevin, qui bégait lui aussi, Kenny tenait absolument qu'il fasse partie de l'aventure. 2 autres amis très proches, Claudio et Elika Padovan, le soutiennent également. Mon père, qui a sa propre organisation, l'Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society, AJFAS, m'aide également avec mon expérience. Et je suis aussi très reconnaissant envers ma jeune sœur Kelsey pour son soutien. Conscient de l'importance pour les plus jeunes d'avoir des mentors, il rappelle que pendant longtemps, il ne pouvait parler de son bégaiement qu'avec son frère. C'est plus tard, à la suite de certaines recherches qu'il a faites, qu'il s'est aperçu que certaines célébrités ainsi que des athlètes bégayaient. Ce fut un choc pour lui. Michael Kidd-Gilchrist, ancien joueur de la NBA avec notamment les Hornets de Charlotte, est l'un de ceux-là. Il a fondé l'organisme américain Change and Impact, décidé à offrir certaines ressources aux bègues. C'est quelqu'un avec qui je parle et avec qui j'aimerais collaborer cette année pour des activités et des rencontres, mijote Kenny Pindou. Lexique. Une personne bègue est une personne qui présente un trouble de la parole appelé le bégaiement, caractérisé par des répétitions involontaires de sons, de syllabes ou des blocages lorsqu'elle parle. C'était « Quand les mots se font attendre », un texte d'André Mani, paru le 8 mai 2026 dans Le Franco.
Vélo, boulot, loto, moins de carbone, plus de plaisir. Un texte de Valérie Simard, paru le 19 juin 2026 dans La Presse. Les gaz à effet de serre émis par ses employés pour se rendre au travail sont-ils la responsabilité d'une entreprise? La firme de génie du bâtiment BPA a compris que oui. Pour s'y attaquer, elle a lancé une série de mesures, parfois ludiques, pour inciter son personnel à se déplacer autrement. Lorsqu'elle a réalisé son premier bilan d'émissions de carbone, une surprise attendait l'équipe de direction de BPA. À l'instar de nombreuses entreprises de services, la plus grande part de ces émissions n'était pas attribuable à la consommation d'énergie de ses bureaux, mais plutôt aux émissions indirectes comme le transport. En 2024, les déplacements professionnels et personnels de ses employés représentaient presque le tiers de l'empreinte carbone totale de l'entreprise qui a des bureaux dans une vingtaine de villes, dont Montréal, Longueuil, Toronto et Québec. « On ne s'attendait pas à ça », déclare Nathalie Boulet, directrice du développement durable chez BPA. Un collègue avait même remis en doute ses résultats, soutenant que le déplacement domicile-travail n'était pas sous la responsabilité de l'entreprise. « Eh bien non, ça l'est, » dit-elle, et on a vu que l'impact était grand. On s'est dit « il va falloir être créatif, sinon on ne réduira jamais nos émissions. » La décarbonation est l'un des 5 piliers du plan stratégique de BPA. Nathalie Boulet et Thierry Blanchard, ingénieurs et chargés de projets en développement durable, ont créé un programme de mobilité durable qui a été récompensé lors des prix Leader en mobilité durable 2025. Le programme contient plusieurs mesures, dont un remboursement de 10 $ pour chaque déplacement d'affaires à un employé qui détient un titre mensuel de transport en commun ou un abonnement à un service de vélo partage. Un remboursement de 67 sous le kilomètre, maximum de 20 km, à un employé qui utilise son vélo personnel pour un déplacement professionnel. Un remboursement de 67 sous le kilomètre pour un déplacement professionnel en véhicule électrique comparativement à 62 sous le kilomètre si l'employé utilise un véhicule à essence. Pour les déplacements domicile-travail, ils ont lancé la loterie mobilité. Afin d'être admissibles au tirage, les participants doivent s'engager à ce que 90 % de leurs déplacements soient faits à l'aide de moyens de transport à faibles émissions. Les prix vont des billets de transport en commun à une carte cadeau pour des aliments locaux. 3 grands prix d'une valeur totale de 4 750 $ sont aussi remis à des employés qui se sont particulièrement démarqués. Il faut que ce soit ludique. Il n'y a personne qui n'aime pas avoir de fun, lance Thierry Blanchard, qui a un passé d'animateur de camp de vacances. Pour mousser la pratique du vélo, BPA participe aussi au défi du mois du vélo, une compétition amicale organisée par Vélo Québec. Cette année, l'équipe de 67 employés a parcouru 4 227 kilomètres. Thierry Blanchard reconnaît que tous ne peuvent prendre les transports en commun, pédaler ou marcher, en raison de leur réalité géographique ou d'un handicap. Il parle alors d'un équilibre à trouver entre pousser le changement et influencer sans pénaliser ceux qui ont des contraintes. Un programme à faible coût. La direction n'a pas été difficile à convaincre. Ça fait partie de la santé non financière d'une entreprise, note le PDG de BPA, Dominique Latour. Diminuer l'empreinte écologique, c'est une chose. Mais si les gens font un peu de sport le matin, ils arrivent oxygénés au bureau. Ça ne se monnaie pas. Quant à moi, ça a plus de valeur qu'une machine à café. L'entreprise investit environ 50 000 $ par année dans le programme. Sur 1 200 employés, la somme n'est pas astronomique. Le plus compliqué a été de reprogrammer le logiciel de la comptabilité. Trop souvent, dit Dominique Latour, on pense que pour faire de l'innovation, ça coûte très cher. Mais on a réussi à faire un beau programme à prix très modeste. Les résultats sont encourageants. Quelques employés se sont départis de leur voiture. Au bureau de Montréal, le nombre de personnes qui ont profité de la contribution de BPA à l'achat d'un abonnement saisonnier à Bixi est passé de 5 en 2024 à 60 cette année. En 2024, les kilomètres parcourus en véhicule électrique ont augmenté de 24 % alors que la hausse n'a été que de 2 % pour les véhicules à essence. L'impact réel sur l'empreinte carbone de l'entreprise n'est pas connu, mais il sera mesuré. En 2024, on entendait, ça n'a pas d'allure, 90 % de déplacements décarbonés pour le concours, raconte Thierry Blanchard. Cette année, ces gens se sont inscrits avec un petit bonhomme sourire en disant finalement « ce n'est pas si pire ». Leur source d'inspiration. Thierry Blanchard nomme le cours à vélo vers une économie nette zéro du professeur Yves Plourde à HEC Montréal, lors duquel les étudiants se déplacent littéralement à vélo pour découvrir de bonnes pratiques d'entreprise. Pour Nathalie Boulet, ce sont ses collègues qui ont été des instigateurs dans le domaine de l'efficacité énergétique. Ça fait partie de nos gènes, souligne-t-elle. C'était Vélo, boulot, loto. Moins de carbone, plus de plaisir. Un texte de Valérie Simard, paru le 19 juin 2026 dans la presse.